Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Cette semaine, les Good Gone reprennent du service à la Comédie Odéon pour évoquer l'actualité de l'automne dans ce lieu que l'on adore, la fréquentation d'œuvres d'art, la vie des artistes, le rire, les livres, la musique et bien d'autres sujets seront au programme de ce nouveau numéro. Partager une fois encore notre enthousiasme pour ce qui se fait à Lyon est un pur bonheur, je tiens à vous le dire. Alors, au sommaire cette semaine, Pandore, auteur, compositeur et interprète à la voix envoûtante, est ici sur notre plateau. Stan, un comédien de très grand talent avec un seul en scène qui fait parler les œuvres d'art, tout ce qu'on aime. Et les expositions du MAC Lyon passées au microscope par notre microbiologiste de l'art contemporain, Gaël. Et bien entendu, nous terminerons par nos Gédéons, les incontournables du moment. On se retrouve sur le plateau avec Pandore. Merci Guillaume pour cette belle rencontre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Alors je voulais inviter Pandore pour une raison assez simple. Il s'appelle Guillaume. Même Guillaume Tell, on dit que c'est un amour, une pomme d'amour, d'accord ? Non, il y a aussi Guillaume Apollinaire. Donc, mais trêve de plaisanterie, je voulais inviter Guillaume Pandore. Pourquoi ? Bah, Guillaume Pandore, évidemment, Pandore c'est ton nom de scène, on est bien d'accord. Parce que je me sens qu'il y a une proximité peut-être avec Apollinaire ou Baudelaire ou des gens comme ça, parce que dans tes textes, oui c'est un petit peu pesant ce que je suis en train de dire, mais il se trouve que tu peux nous dire un petit peu comment tu les écris, comment tu les craches sur la feuille.
Comment je fais pour poser sur mes mots sur le papier? Je prends un stylo et j'écris. Enfin, voilà, c'est réponse terre à terre, mais c'est un peu ça en fait. C'est juste l'acte d'écrire pur et simple. C'est juste ça.
Tu vas ouvrir un litchi, enfin je sais plus.
Mmh. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que voilà, justement, en fait, je voulais produire plus de contenu plus régulièrement, parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin et ont envie d'avoir. Et puis les algorithmes nous tuent si on sort pas régulièrement des choses. Du coup, j'ai eu envie de faire de produire régulièrement, parce que je le fais déjà en fait, mais je le poste pas. Et puis ça demande de l'argent, quoi, le mixage, mastering, tout ça. Donc je me suis dit, je propose un échange, c'est-à-dire qu'une fois par mois, je sors un titre sur lequel je rajouterai des images que je récupère, etc., ou que je fais moi-même. Et ceux qui veulent peuvent me donner. C'est une forme d'abonnement, quoi, par mois, 1€, 2€, etc. Et ça me permet, moi, de financer tout ce qui est mixage mastering qui permet d'avoir un son pro.
Et aujourd'hui, se faire connaître, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux essentiellement, Pandore?
J'en sais rien. Il y a l'argent, il y a le réseau, je pense. Parce qu'il y a des artistes qui, de base, sont pas connus et qui arrivent à signer dans des grosses majors par du réseautage pendant des années. Et quand ils font leur sortie, du coup, à ce moment-là, ils sont vraiment soutenus. Et donc, il y a un impact beaucoup plus important. Et puis, il y a certains artistes qui, eux, se constituent seuls, entre guillemets, par le biais d'Internet, qui ont une facilité avec les réseaux, qui ont une manière de faire qui convient à cette époque, quoi. Et ça marche bien, quoi.
Et est-ce que toi, Pandore, tu es à l'aise, justement, avec ce mode de diffusion? Parce que finalement, c'est s'auto-diffuser à travers... Ouais. Voilà, les réseaux, c'est jamais simple.
Moi, j'avoue que j'aime pas trop, quoi. Mais j'aime pas trop mettre ma tête régulièrement sur les réseaux. Je vois bien que sur Instagram, par exemple, il suffit de poster régulièrement des photos de soi, quoi. Mais je trouve que l'exercice est un peu atroce, quoi. Mais bon, voilà, pour moi, c'est compliqué de le faire. Je préfère faire de la musique. C'est pour ça d'ailleurs que je proposais ce truc d'une fois par mois, parce que c'est mon moyen de me dire ok, je peux faire quelque chose de régulier sans non plus trop me trahir moi en me prenant en photo.
Tu viens de sortir un titre qui s'appelle 1000 grammes, justement, qui est assez long aussi. Comment tu l'as composé, comment tu l'as écrit?
Celui-là, je l'ai composé vraiment, c'était un peu une sorte de, en fait c'était juste après le Covid, je crois. Je venais de savoir qu'en fait le label qui voulait me signer allait pas me signer. Et voilà, je me suis retrouvé face à mon piano et je me sens prendre des pincettes et il y avait une sorte de manière un exutoire là-dedans, quoi. Et c'est sorti comme ça.
Je sais pas qui je suis, mais je sais ce que je veux. M'a jeté dans la vie comme si j'étais une marionnette. Je sais pas ce que je fais ici, le travail est honnête. J'ai peur de finir docile, une femme lavant mes chaussettes. Je veux pas d'une vie normale, je vaux pas la chandelle. Je tomberai pas pour une dame, pour un je t'aime qui chancelle. Je suis peut-être alcoolique, je suis peut-être comme un prêtre qui bois le sang du Christ parce qu'il peut plus souffrir la messe. J'ai pas de plan de carrière, pas de larme à terre, j'ai qu'une arme à terre pour les grabataires. Je vais finir comme un connard avec trop de grammes par terre. aucun mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Quitte à écouter 1000 grammes, autant que ce soit bien fait. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Si Satan me regarde, qu'il me garde une place au banquier. Je suis un cadavre, la vie un calvaire. Je t'épargne les détails, Paris c'est trop cher. L'industrie se gave, font rien comme d'hab. Nouvel ordre mondial, non bourgeoisie mondaine. Bouger des montagnes, transformer leur haine. Je suis pas parisien, mais je montrais quand même. Mépris quotidien, ça me fait même plus de peine. Sont comme des chiens, leur ambition malsaine. Mes sons sont mal faits, mais pas contrefaits. Sont contents de faire des sous-sous sans rien faire. On a rien sans rien, non rien sans défaire. Le vide qui tient au profond de notre être. Peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Quitte à écouter 1000 grammes, autant que ce soit bien fait. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Si Satan me regarde, qu'il me garde une place au banquier. Faut renverser l'enfant et devenir son père. Faut songer la violence contre ceux qui la servent. Faut verser les phrases en oubliant les verbes que je jetais aux gens comme chrysanthème au cimetière. J'ai prié pour rien dans la langue de Molière. De laisser mon âme à des gens qui l'enterrent. J'ai été mauvais en me pensant complet. J'ai voulu faire le mec sans connaître mes plaies. Mais la vie est cruelle et le crédit mutuel peuvent attendre longtemps avant que Bourges me repère. De toute façon j'aime pas les banquiers, leur manière de tous se croire super. À force de se sucer, je suis un artiste raté. Je suis même pas payé, qu'est-ce que je m'en bats les clanches qui finissent par me ghoster. J'ai pas attendu Dieu pour devenir qui je suis. C'est sûrement pas les hommes qui dicteront ma vie. Maintenant je suis plus gentil, t'as vu manger, compris. Je sais qui je deviens et vers où va ma vie. J'ai ouvert mon destin comme on étripe un porc. L'intestin du destin pour y forger de l'or. Voilà, j'suis en colère, c'est la fin des colliers. Comme une rage écolière qui m'a jamais quitté. Comme un souvenir amer, laissant sans vanité un vanique. Qui est ta mère bien démonétisée, teasée au goulot et visée les brûlots étoisés le ciel en les regardant brûler, en les regardant brûler. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Quitte à écouter 1000 grammes, autant que ce soit bien fait. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Si Satan me regarde, qu'il me garde une place au banquier.
On vient d'écouter 1000 grammes de Pandore et on vous conseille de découvrir cet artiste.
Vous pouvez juste taper Pandore Musique sur Google en fait et vous allez tomber sur normalement mon Facebook, etc. Vous allez. Pouvez regarder sur Tipeee si vous voulez pour me soutenir si vous avez aimé, que vous avez envie. Tout est expliqué sur Facebook et sinon sur Instagram, c'est Pandore-Musique.
Merci beaucoup Pandore d'être venu nous rencontrer. Notre second invité est Stan. Stan est un comédien à suivre. Il est lauréat d'une 20aine de festivals. Au théâtre, on le retrouve dans La Mouette, Les Trois Sœurs et La Cerisée d'Anton Tchekhov, mise en scène par Christian Benedetti. Au cinéma et à la télévision, dans Le Débarcadère des Anges de Brigitte Rouen. Chercher le garçon de Dorothée Sebag, Les Tuches d'Olivier Barou. Et enfin, Nos Limites, produit par Luc Besson et Toi, ça va, de Marie-Stéphane. Nous l'avons rencontré à l'issue de son seul en scène, en tournée dans toute la France et en Suisse, intitulé « Et si les œuvres d'art pouvaient parler ?» On fait parler des œuvres d'art dans votre spectacle. D'où vous est venue l'idée ?
L'idée, en fait, elle m'est venue en 2011, fin 2011, début 2012. En fait, j'ai dû faire un sketch pour Laurent Ruquier. C'était une émission qui s'appelait « On ne demande qu'à en rire ». J'avais tiré au sort un thème qui était sur la Joconde. Ça m'a donné l'idée, en fait, de la faire vivre. Des amis qui ont vu ça à la télé et qui m'ont conseillé de le reprendre au théâtre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et heureusement que je les ai écoutés parce que du coup, après, ça m'a donné l'idée d'écrire sur la Vénus de Milo. J'ai fait 8 ans d'écriture pour ce spectacle. Et du coup, après, j'ai rencontré mon metteur en scène, Papy, qui m'a énormément aidé à sculpter ce spectacle.
Il me dit, monsieur Toutankhamon, c'est quoi le problème? Je dis, c'est quoi le problème? Tu penses que c'est pas un problème que tu sois là? Il me dit, ben non, monsieur Toutankhamon, c'est normal que je sois là. Je suis archéologue. Je dis, c'est quoi ça, archéologue? Déjà, j'aime pas le mot. Tu as vu, ça me fait faire la grimace. C'est quoi, archéologue? Il me dit, ben, je cherche. Je dis, tu cherches. Tu cherches la merde. Ah ben là, tu l'as trouvé, hein? Ah ouais. Je t'ai demandé de revenir à la vie, moi, Carter. Est-ce que je t'ai demandé de revenir à la vie, moi? Je crois pas, hein? La vie, je la déteste. 18 ans, j'ai vécu 18 ans d'enfer. Pour moi, la vie, c'est ce qui est pour vous la mort. Et Carter, elle est bientôt là qu'on est en train. La chance. Je dis, tu sais pourquoi il va t'arriver des bricoles, Carter? Parce que je vais te maudire. Et obligé. Tu te sors du tombeau. Tu vas rester les bras croisés. Un an. Tu crois pas, il m'a rendu à la vie. Hein. Sur la tête à Kéops, il m'a ressuscité. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait à la mort pour mériter ça? J'avais fait la cérémonie. On m'avait momifié, j'étais sapé comme jamais. J'avais des bandelettes, Balenciaga de lettres, tellement qu'elles étaient belles. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Carter? Et il m'a déroulé les bandelettes. Hatshepsut. Je t'ai demandé de me dérouler les bandelettes, moi, Carter. Qu'est-ce que je t'ai demandé de me dérouler les bandelettes? Je crois pas. Hein. En plus, je dis, Carter, tu n'as pas des chances, hein? Parce que moi, je suis un parent maudit. Alors déjà, une malédiction de pharaon, ça fait mal. Aïe. Mais une malédiction de pharaon maudit, aïe, aïe, aïe. J'aimerais pas être à ta place, Carter. Mais surtout, j'aimerais pas être à la mienne, hein, vas-y. Hein. Ah, vas-y, j'avais pas réussi ma vie, mais j'avais réussi ma mort. J'étais à deux moments d'y être. J'étais sur le fleuve, là, sur la barque. Je voyais Osiris, au loin, le dieu de la mort. Il me disait, wesh, mon père, tu viens de t'arriver? Et l'autre, il me sort du tombeau. Ça faisait 3249 ans que j'étais en train de naviguer, l'autre il me sort de la mort. Il m'a coupé le voyage, ma mort est foutue. Il m'a coupé le voyage, il m'a fait le Thomas Cook.
Et tout en camant, ça me permet surtout de, à la fois de m'amuser effectivement, parce que je peux trouver quelque chose de... d'amusement dans le corps et dans le rap, mais c'est surtout ce qui m'intéresse chez tout en camant, c'est... le rapport à la mort. Par exemple, on a la jeune fille à la perle qui, elle, va désirer mourir, ou en tout cas, pas ça exactement, elle va désirer pouvoir être mortelle. Non pas qu'elle elle va dire la mort lui fera peur, mais c'est l'idée de finitude lui donne un sens à sa vie. Et Toutankhamon, c'est une façon de parler d'un autre rapport à la mort, où lui, il était bien dans la mort, on l'a dérangé. Et pour lui, c'est une catastrophe de devenir une œuvre d'art. C'est pour ça que mon metteur en scène m'a conseillé de le mettre à la fin. Pas seulement parce qu'il est effectivement plus punchy et qu'on part sur quelque chose de mouvement et de rythme et de rap et tout ça, c'est surtout parce qu'à la fin, il est très déçu d'être une œuvre d'art. Et du coup, ça fait un peu un pied de nez à tout ce qu'on dit avant sur les œuvres d'art. Quoi.
Ouais, alors effectivement, ces œuvres d'art, elles ne sont pas super heureuses en fait, de leurs conditions, très clairement.
Vous savez qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps avec des spectatrices et des spectateurs à Paris, où on me dit, mais en général, elles ne sont pas contentes. Oui, c'est un peu aussi, ces œuvres d'art, c'est une façon de parler d'humanité En les humanisant, on se rend compte qu'elles peuvent avoir les mêmes rêves et les mêmes aspirations que les êtres humains et les êtres humains. Et du coup, il y a quand même certaines œuvres qui sont assez contentes, comme une des demoiselles d'Avignon, qui était prostituée. Elle est quand même bien contente d'être une œuvre d'art et en plus une des plus grandes œuvres qui a révolutionné la peinture. Et on sent qu'elle a un rapport à Picasso où elle est sous emprise un petit peu.
Pour parler de danse, il y a une partie très importante corporelle et chorégraphique chez vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez depuis le début de votre carrière?
La danse, ouais, ça fait depuis, je crois, 2010 où j'ai écrit un sketch sur Michael Jackson. Souvent, en fait, la chance que j'ai avec le seul en scène, c'est de pouvoir me créer ce que j'ai envie de jouer. Surtout commencer à danser en écrivant ce sketch sur Michael Jackson. C'était au lendemain de sa mort et comme c'est quelqu'un qui a bercé mon enfance, quand j'avais 3 ans, je dansais déjà sur les tables. Et du coup, j'ai voulu aussi rallier à l'enfance. Pour moi, le théâtre, il est très lié à l'innocence enfantine. Et même en abordant des sujets graves, c'est toujours un plaisir enfantin de faire rire et de voir les gens rire. Et après, ça m'a fait danser tous les jours depuis 2010. Il n'y a pas un jour où je danse pas. Donc ça renvoie aussi à ce que dit Nietzsche, qu'une journée sans danser est une journée perdue. Mais je crois que la danse, ça me permet à la fois de respirer. Et puis aussi, c'est une joie du corps. J'avais parlé de ça. J'ai fait un film qui s'appelle Et toi, ça va, où je jouais un dépressif. J'avais parlé de ça avec un psychiatre à la sortie du film. La mémoire corporelle m'avait aidé à jouer. Il m'avait parlé de Spinoza qui, quand on est en dépression, on ne peut plus se figurer la joie du corps. Alors que quand on danse, c'est tout l'inverse. Pour moi, la danse, c'est la joie et c'est la vie. Comme pour moi, les œuvres d'art, ce sont des entités qui arrivent à vaincre un peu la mort, puisqu'elles repoussent le temps.
En tout cas, c'est très beau, on rit beaucoup et puis il y a cette légèreté, notamment avec votre corps, hein, on l'a dit à l'instant. Vous parlez de la mort, certes, ouais. Mais pas seulement. Hein, c'est très très bien écrit.
J'ai écrit pendant 8 ans, à peu près 2 à 4 heures par jour, quand une quarantaine d'œuvres. Il y a certaines œuvres comme Le Penseur où j'ai 50 pages, c'est-à-dire que ça équivaut à presque 2 spectacles. Le plus dur, ça a été de trier. Et c'est vrai que de rencontrer Alain Degois dit Papy, qui est mon metteur en scène, ça a été une rencontre fondamentale pour moi parce qu'on s'est de suite entendu sur le rapport à l'art. Est-ce que je voulais raconter le fait que c'était vital pour moi de jouer, que c'était pas si important que ça qu'on voit les œuvres, mais c'était surtout que les œuvres allaient permettre de parler de thèmes qui m'étaient chers et que finalement on parle que d'humains dans le spectacle. Et grâce à son expérience, parce que papy c'est quelqu'un qui travaille dans l'improvisation, c'est lui qui a révélé notamment Jamel Debbouze ou Blanche Gardin ou Bounaïmin pour citer les plus connus, mais il a aussi changé la vie de centaines de jeunes à Trappes où je l'accompagne souvent, où c'est quelqu'un de formidable. Et papy s'est pas fait avoir par mes névroses entre guillemets, il m'a dit garde tous tes textes pour toi, va sur le plateau et sur le plateau on va voir avec ton corps justement qu'est-ce qu'on va choisir. Et c'est vrai que c'est en jouant sur le plateau que le choix est arrivé à se faire, parce que sinon je n'arrivais pas à trier, j'avais trop d'histoires. Donc j'espère que ça sera pas si long pour écrire le prochain spectacle. Le spectacle est en tournée quand même dans toute la France et en Suisse aussi normalement. Après j'adore vraiment jouer à Lyon et je dis pas parce que je suis là, Marine le sait qui est en face de nous là, qui me suit et qui m'est fidèle depuis mes tout débuts. Toujours vraiment hyper touchant de revenir ici à l'espace Gerson, vraiment où j'ai débuté hein, vraiment. Et j'adore Lyon à tel point un jour j'étais venu jouer 3 semaines ici à Gerson et j'avais tellement eu un coup de cœur pour la ville que j'avais vraiment déménagé ici. Donc j'ai dit vraiment, mais c'est vrai, hein, et j'avais déménagé, j'étais resté seulement 6 mois, uniquement parce qu'on m'avait appelé après à Paris pour jouer dans des pièces de Tchekhov, et ça se refuse pas parce que Tchekhov c'est le maître. Je dis pas ça parce que je suis là, mais c'est vrai que le public à Lyon, il a une écoute particulière. Je pense qu'on sent qu'il a l'habitude d'aller au théâtre, et il y a une écoute particulière, c'est-à-dire ça rit encore plus qu'ailleurs dans les moments d'humour, et c'est encore plus tendu d'écoute dans les moments où l'écoute est nécessaire. Par exemple, comme chez Van Gogh, on sentait que... Parce que j'ai essayé quand même de vous parler de jeux de mots, mais j'ai fait beaucoup moins de jeux de mots que dans mon précédent spectacle. J'ai plus essayé d'écrire une écriture poétique, mais qui ne se voit pas trop. À ne pas faire de pirouettes ou d'effets avec les mots, mais par contre, d'écrire d'une façon poétique, notamment le portrait de Van Gogh, qui est de la poésie, mais qui est sans avoir l'air d'y toucher. Je tenais beaucoup à ce que tout soit simple. N'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas de référence d'œuvre d'art, tout est écrit pour qu'ils comprennent ou qu'elles comprennent le spectacle. En revanche, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'art, la philosophie, le théâtre, la danse, il y a énormément de références cachées, un peu comme dans une œuvre d'art où quand on va l'aimer, il faut d'abord la ressentir.
Merci beaucoup Stan, on espère vous retrouver bientôt à Lyon. Poursuivent les expositions au MAC des femmes et deux hommes pour un regard croisé sur la notion de récit et la performance avec Abramovic et Ulay. Mais je laisse Gaël vous parler de cette affiche plurielle dans ce musée résolument nouveau depuis la prise de fonction de sa directrice Isabelle Bartolotti.
5 expositions sont actuellement programmées au MAC, le musée d'art contemporain de Lyon. Mise à l'honneur, comme vous l'avez dit, de 5 femmes artistes. On note toutefois la présence de 2 hommes, mais les 2 sont décédés. Le premier, Mel Ramos, disparu en octobre 2018, est programmé dans le désormais célèbre format du MAC, nommé Crossover, espace à l'entrée du musée faisant dialoguer 2 artistes. Des œuvres de Mel Ramos du fonds permanent du MAC sont mises en regard avec celles de l'artiste émergente Hélène Ulac. Jouant sur le picabou, soit jette un coup d'œil ou coucou me voici, ce crossover insiste sur la représentation du corps avec des jeux de regard et de dissimulation. Avec ce picabou, vous allez en effet voir par le trou de la serrure. Le deuxième artiste masculin est le regretté Ulay, disparu en mars 2020. On ne présente plus le célèbre couple pionnier de la performance que formait Marina Abramovic avec Ulay. Leur œuvre commune, Repoussant les limites du corps humain, est réalisée entre 1976 et 1988, fait partie du fonds permanent du MAC. N'oubliez pas que le musée avait invité le couple en 1986 pour leur célèbre cycle de 22 performances intitulé Night Sea Crossing, dont pourra s'inspirer le visiteur en quête de méditation et de stoïque immobilité. Au-delà des 2 artistes masculins disparus, le MAC fait la part belle à 3 monographies d'artistes féminines et vivantes. Delphine Ballet, Jasmina Sibic et Christine Rebet, pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Avec Figure de cire, Delphine Ballet axe son travail sur un questionnement. Comment croyances, processions et rites de passage, naissance, mariage, deuil, façonnent-ils le corps social ? 3 films, Charivari, Le pays d'en haut et Le temps des oiseaux, ainsi que 15 photos, sont une invitation à un voyage surréaliste, baroque, aux airs caravagesques, de renaissance flamande, tout en passant par Georges de la Tour. Chaque photo est conçue comme un objet unique. Avec la plus grande minutie, les images envoûtantes, hypnotiques et parfois surréelles de Delphine Ballet nous interrogent. Qu'est-ce qui fait corps? Qu'est-ce qui fait décor? Ceci jusque dans un incroyable diptyque de gisant, ou plutôt une illusion de gisant, puisqu'il n'y a pas de corps, mais son décor, seul un fascinant et troublant linceul. Jasmina Sebic, d'origine slovène, qui travaille donc entre la capitale de la...
Ljubljana,
tout à fait, et Londres. Elle a d'ailleurs exposé au pavillon slovène de la Biennale de Venise en 2013. Artiste revendiquée chercheuse, elle propose au sein de son exposition Stagecraft, une mise en scène du pouvoir, la version définitive, après 3 ans de recherche, de son film intitulé The Gift, soit le don. L'artiste aime les films performatifs qu'elle conçoit avec une conscience aiguë du passé politique, culturel et artistique national. Jasmina Sibic travaille sur les relations entre démarche artistique et pouvoir politique. Comment le politique utilise-t-il les arts dans la formation des identités nationales? Quelles sont les forces artistiques de persuasion déployées aux fins idéologiques du soft power? The Gift met ainsi en scène des bâtiments emblématiques comme le siège du Parti communiste à Paris, construit par Oscar Niemeyer, le Palais des Nations à Genève ou encore le Palais de la Culture à Varsovie. Stagecraft, une mise en scène du pouvoir, est un coup de projecteur sur la liberté et son expression artistique. Enfin, gros coup de cœur pour Christine Rebet, déjà présente à la Biennale d'art contemporain de Lyon de 2017. Son exposition nommée « Escapology », soit l'art de l'évasion, est définitivement magnétique. Son univers mêle théâtre, prestidigitation et animation faite manuellement. Incroyable travail artisanal pour ses petits films réalisés comme au début du cinéma, mais au résultat inouï et hypnotique. Christine Rebet voyage parfois 2 à 3 ans pour créer un film de 5 minutes. Et pour ce que l'artiste nomme son cinéma de papier, elle peut réaliser jusqu'à 4000 feuilles de dessin pour un film qui dure quelques minutes. Le MAC diffuse 6 films d'animation d'une durée entre 3 et 8 minutes, dont Autolithe, inédit, spécialement réalisé pour l'exposition du MAC. Autolithe narre la tradition de la pêche à la perle pratiquée jusque dans les années 20 dans le golfe Persique par des esclaves qui rythmaient leurs gestes de leur chant traditionnel. Chaque petit film d'animation est captivant aussi bien par sa technique artisanale que par sa narration, évoquant des traumatismes collectifs, des mythes et des traditions. L'univers enchanteur de Christine Rebet est donc faussement naïf. Chaque projet nécessite en amont d'amples recherches, des voyages et des dialogues avec des anthropologues et des philosophes. Les animations artisanales de l'artiste née à Lyon, une Lyonnaise, insistons, créent une rare approche du réel et une singulière anthropologie visuelle. À ce titre, regardez bien l'animation The Black Cabinet, qui propose dans un décor victorien des médiums et un personnage automate incarnant un propagandiste. Sombre pantomime dénonçant la propagande nazie. Enfin, sachez que le MAC a lancé en juin 2021 une série de podcasts. Vie du musée, montage d'exposition, relations avec les artistes. Ce sont ainsi toutes les coulisses du MAC Lyon qui sont mises à votre disposition. Les 5 expositions sont à voir au MAC Lyon jusqu'au 2 janvier 2022. Plus d'informations sur mac-lyon.com.
Merci beaucoup Gaëlle. On se fait une petite pause juste avant les Gédéons. On termine cette première émission avec nos coups de cœur du moment. Qui veut commencer ?
Gédéon Vassman et l'exposition Effets spéciaux crevés d'écran. Venant inaugurer l'ouverture au grand public du pôle Pixel Studio 24, cette exposition phare s'inscrit dans la dynamique du programme Villeurbanne, capitale française de la culture 2022. Pôle Pixel vous immerge dans un espace de 30 000 mètres carrés où sont fabriqués des films, des documentaires, des jeux vidéo, des animations, soit le lieu idéal pour plonger dans le vaste panorama
des effets spéciaux tout en les expérimentant. Depuis les trucages de prestidigitation de Méliès de la fin du 19e jusqu'aux dernières technologies de pointe. Didactique, interactive, immersive et ludique, effets spéciaux crevés d'écran fera de vous un expert de tous les effets, du cinéma jusqu'aux publicités. Coproduite par le CNC, le Centre National du Cinéma et d'Images Animées, et la Cité des Sciences et de l'Industrie, l'exposition repose sur un parcours qui recense toutes les étapes de la chaîne de production audiovisuelle. Pré-production, plateau de tournage, post-production et salle de cinéma. Jouez au réalisateur jusqu'à l'acteur, motion capture, casque de captation, technique d'incrustation, masque, écran 3D, tout est à votre disposition. Magie garantie pour tous les âges. L'exposition Effets spéciaux crevés d'écran est à voir jusqu'au 27 mars 2022. Plus d'informations sur paulpixel.fr.
Bien, j'ai sorti de mon sac le dernier livre de Denis Robert, Travailleur médiatique, avec un sous-titre très intéressant, Résister à la fabrication du consentement. Donc évidemment, ça évoque 1000 grammes. Et c'est un bouquin passionnant. Denis Robert, on le connaît, c'était un grand reporter à Libération. Et puis ensuite, il a dirigé le média, il s'en est fait un petit peu virer. Et puis maintenant, il a créé un autre média qui s'appelle Blast et qui a bien du mal à survivre. Et c'est un média essentiel parce que différent, il sort quand même pas mal d'affaires. Voilà, en ce moment, c'est plutôt intéressant de voir un petit peu l'envers du décor. Je voulais juste lire une citation au tout début du bouquin de Denis Robert. Alors évidemment, c'est une citation de Noam Chomsky. La foule doit être détournée vers des buts inoffensifs grâce à la gigantesque propagande orchestrée et animée par la communauté des affaires qui consacre un capital et une énergie énorme à convertir les gens en consommateurs atomisés et en instruments dociles de production. Il est crucial que les sentiments humains normaux soient écrasés. Ils ne sont pas compatibles avec une idéologie au service des privilèges et du pouvoir qui célèbre le profit individuel comme la valeur humaine suprême. Donc évidemment, cette citation qui date un peu fait écho évidemment à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment un livre passionnant. Donc c'est aux éditions Massot.
Merci Guillaume. Je vais faire dans le plus léger, mais en même temps pas forcément de le moins qualitatif. Que j'ai adoré Les Olympiades de Jacques Audiard. Pour moi, c'est un nouveau Jules et Jim. C'est un film en noir et blanc absolument magnifique avec trois comédiens qui sont Lucie Zhang, Makita Samba et Noémie Merlant. Paris est filmé en noir et blanc, un quartier jamais filmé ou presque, les tours du 13e arrondissement, de nouveaux visages naissants à l'écran. Dans les Olympiades tournées pendant le Covid et présentées en compétition à Cannes cet été, Jacques Audiard renouvelle les récits d'une génération aquaboniste au bord du désenchantement. Et pourtant, c'est absolument magnifique, il trouve l'amour. Émilie, jeune diplômée de Sciences Po, se retrouve à vendre des forfaits téléphoniques. Et oui. Quant à Camille, Makita Samba, professeure de français désabusée, trentenaire, il ne croit plus en la méritocratie républicaine dont il est pourtant issu. Plus rien ne semble fonctionner sauf le sexe. Émilie et Camille vont tout de même essayer de goûter un peu au paradis que leur ont vendu leurs parents. Trouver un travail, tomber amoureux, etc. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un film initiatique absolument magnifique, brûlant et extrêmement bien filmé. Quand Jacques Audiard s'empare d'un sujet, il le fait à fond. Et sachez en fait que c'est une adaptation d'après trois nouvelles graphiques de l'auteur américain Adrian Tomin, Amber Sweet d'abord, Killing and Diving et puis Hawaiian Getaway, qui sont des petites perles de l'édition américaine indépendante. Et c'est vrai que j'ai été étonnée en fait, de la part de Jacques Audiard qui s'empare en fait, de ce type de choses. D'abord, c'est la première fois qu'il adapte un roman graphique. Et ensuite, le noir et blanc lui sied absolument à merveille. Donc j'invite nos auditeurs à voir les Olympiades, à courir au cinéma, à retourner au cinéma, parce que le cinéma, c'est tellement chouette. Merci beaucoup, on termine cette émission sur ces belles paroles. Bye bye, à la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.